Les moments musicaux de l'Académie Clémentine. Une émission qui a pour vocation de vous faire partager les concerts qui sont donnés en l'église Saint-Georges de Cannes. Aujourd'hui, nous évoquons le concert du 25 octobre 2008 qui avait pour œuvre essentielle une pièce magnifique de Messiaen qui s'appelle le Quatuor pour la fin du temps. Ce concert était interprété par les solistes de Cannes et j'ai le plaisir d'accueillir trois des membres de ce Quatuor. Bertille Dufour, super soliste de l'orchestre de Cannes-PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ça ?
Oui, exactement, bonjour.
Bonjour Bertilde. Philippe Cochevert, violoncelle solo.
Oui, exact, bonjour.
Bonjour Philippe. Et Alain Danguin, clarinettiste, clarinette solo de l'orchestre de Cannes également. Bonjour. Et qui tient une place importante aussi dans ce quatuor pour la fin du temps. Alors, je propose qu'on écoute rapidement un peu peut-être la première pièce de ce quatuor, mais avant le replacer un peu dans ses conditions de création, que les auditeurs comprennent.
Oui, alors là, il va y avoir beaucoup à dire, hein, puisque ce quatuor a été composé et créé dans un camp de prisonniers à Görlitz, exactement, en Silésie.
Messiaen était soldat,
il a été fait prisonnier et les Allemands lui ont permis de garder son matériel pour composer, ils lui ont même fourni de la musique et lui, toute sa captivité, en dehors du travail obligatoire qu'il avait à faire, il a composé. Les Allemands se sont très vite rendus compte du génie de cet homme, hein, et ont tout fait pour lui, pour qu'il puisse...
Voilà, ils l'ont d'ailleurs libéré avant la fin de la guerre, sous la pression, je crois, de Marcel Dupré, qui était
notamment plus. Voilà, exactement.
Voilà. Ouais. Alors ça, c'est le cadre général de cette pièce. On soulignera après son importance dans la musique du XXe siècle. Le premier mouvement, la liturgie de cristal, on en dit un mot avant de la diffuser?
Alain va nous dire, parce que c'est une pièce où la clarinette est importante.
Oui, alors. Effectivement, bon, ça commence avec la clarinette, où la clarinette a une partie importante. Et ce qui est très étonnant dans cette première pièce, c'est la première fois où on entend les chants d'oiseaux, parce qu'on sait que Messiaen était très, très attaché à reproduire les chants d'oiseaux, et c'est la première pièce dans l'histoire de la musique de Messiaen où on entend effectivement ces chants d'oiseaux. Donc la clarinette symbolise l'oiseau, et puis avec un accompagnement très très léger de quatuor. Alors voilà, si on peut écouter cette pièce.
Alors nous l'écoutons.
Thank you.
Voilà, donc le premier mouvement du Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, la liturgie de cristal. Que dire de cette pièce qui interroge dès le début de l'œuvre?
Oui, ben ça c'est sûr qu'on est saisi au départ parce que c'est pas une écriture habituelle. Ce que disait tout à l'heure Alain, les oiseaux, bien entendu, et puis aussi l'accompagnement, ces harmonies qui sont en dessous, qui mettent un climat, c'est inhabituel chez tout compositeur, c'est évident. Et alors, ce que je voulais dire avant de parler un petit peu en détail du quatuor, c'est qu'il y a huit mouvements dans ce quatuor pour la fin du temps. Quand Messiaen est arrivé en Allemagne, je pense qu'il n'avait pas l'idée de cette réalisation, puisqu'il avait fait une transition à Nancy, où il avait écrit l'intermède du...
Dans un camp de prisonniers.
Aussi dans un camp, en attendant d'être dispatché dans une autre ville. Et il avait écrit un intermède qui est pour violon, violoncelle et clarinette. Il avait fait un petit trio, comme ça, qui dure 2-3 minutes, voilà. Et une fois qu'il s'est retrouvé dans ce camp à Görlitz, c'est qu'il a rencontré Étienne Pasquier, le violoncelliste, Jean Le Boulaire, le violoniste, et puis Henri Acocca, le clarinettiste. C'est à partir de là qu'il a eu l'idée d'écrire d'autres mouvements et de faire le quatuor pour la fin du temps. L'idée est partie de là-bas. Et il n'y avait pas, c'était pas prémédité au départ. Voilà.
Ouais, c'est comme Bocuse qui fait sa cuisine du marché. Je vous cuisine ce que je trouve. Donc je compose avec les instrumentistes que j'ai à ma disposition.
Voilà, exactement.
Et comment cela se passait-il pour les instruments? Parce que il suffit pas de composer pour le violoncelle, il faut en trouver un.
Exactement. Alors là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et c'est vrai qu'on s'interrogeait parce que Messiaen ne démentait pas. Alors par exemple, on a entendu que le violoncelle avait que 3 cordes. Je suis violoncelliste et honnêtement, même si on enlève la corde de do, je vois pas comment on pouvait jouer cette œuvre écrite. C'était pas possible. Alors, s'il manquait la corde de la, c'est même pas la peine. Impossible à jouer. Et en fin de compte, c'est des choses qui ont couru pendant, après. Mais Messiaen n'est jamais intervenu. A toujours laissé dire comme ça. Et en fait, le violoncelle avait 4 cordes. D'où partaient ces bruits? Alors c'est comme dans notre société, il y a toujours des bruits qui partent comme ça. Alors donc le violoncelle était quand même entier. La clarinette, même si elle n'était pas dans un état terrible, il avait sa clarinette qui était la sienne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Henri Acocca, toute la guerre, il n'avait qu'une chose avec lui, c'est sa clarinette. Il a gardé sa clarinette toute la guerre. Voilà.
J'ai vu qu'il y avait une clé qui avait fondu de la clarinette près du gaz. J'ai lu ça sur internet. Hein,
d'accord.
Et donc une clé fondue, ça dépend à quel
degré
de fonte, mais ça n'empêche pas de jouer effectivement. Mais c'est pour dire le l'état de la clarinette.
Mais il y a un consommable dans la clarinette, non? Les hanches se renouvellent régulièrement.
Là, dans les conditions du camp, c'est difficile de comprendre un peu. Pour la clarinette, la pire chose, ce serait que les tampons ne bougent pas, vous voyez, pour des raisons d'hygrométrie ou de choses comme ça. Mais a priori, cette clé fondue, c'est rigolo, parce que bizarrement, il l'avait laissé près du gaz, d'après ce que j'ai lu. Et donc, voilà, c'est amusant, mais c'est certainement moins gênant qu'une corde en moins sur un violoncelle, c'est sûr.
Oui, et d'après, après lecture de toute cette période et tout, visiblement, c'est le piano qui était dans le plus mauvais état. Les touches remontaient pas vraiment. Enfin bon, Messiaen s'en arrangeait, mais c'était l'instrument qui était le plus abîmé.
C'était un piano droit.
C'était un piano droit, exactement.
Ils n'ont pas trouvé un piano de concert.
Non, c'était un piano droit.
Alors c'est l'occasion, puisqu'on parle du piano, peut-être de rendre hommage à celle qui est absente aujourd'hui, qui est
Marika Hofmeyer.
Marika Hofmeyer, pianiste magnifique on va bientôt réécouter avec Olivier Charlier à Saint-Georges. Mais que dire de Marika?
C'est notre partenaire depuis des années. Tous les concerts qu'on fait de musique de chambre, dès qu'il y a du piano, c'est elle qui le fait. Elle joue beaucoup avec Berthilde. Ils ont fait de la sonate, enfin avec Alain, ils avaient un trio aussi, et puis elle fait partie de notre formation depuis un bon moment.
Très bien. Alors, deuxième pièce de cette œuvre, la vocalise pour l'ange. Qui a quelque chose à dire sur l'ange?
C'est Alain.
Non, Alain, il va nous parler de l'abîme des oiseaux.
J'ai sauté un. J'ai la Berthilde.
La vocaliste pour l'ange, c'est moi l'ange.
C'est toi. Alors Berthilde, dites-nous, comment arrive-t-on à être super soliste de l'orchestre régional provençal Côte d'Azur?
Oh ben, tout simplement après des études et puis passer un concours. Comme dans tous les orchestres, on rentre sur concours. Donc moi, je fais du violon depuis l'âge de 5 ans.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est, voilà. C'est une vocation, non?
Oui, oui. Bon, enfin bon,
rentrer dans la musique, c'est un peu comme rentrer dans les ordres.
À l'école un petit peu, donc pour moi c'était naturel. Je suis jamais à l'école. J'ai fait les cours par correspondance. J'avais un professeur qui me faisait travailler donc le violon en même temps. C'était quelque chose de naturel, voilà. Et je suis rentrée au Conservatoire de Paris, j'ai passé concours internationaux, et donc il y avait un concours de violon solo à l'orchestre, et voilà, j'ai passé le concours que j'ai réussi, ça fait 27 ans maintenant.
27 ans que vous êtes à l'orchestre?
Oui.
Vous êtes arrivée à 10 ans.
On va dire comme ça, si vous
Très bien. Et pour éclairer la lanterne des auditeurs, super soliste, ça. Bon, super, on suppose que c'est au-dessus. Mais ça, quelle signification?
Ça a une signification qui est relativement récente dans les orchestres. Je crois que c'est, je sais même pas s'il y a eu 20, 25 ans avant. Il y avait des violons solos dans les orchestres qu'on appelait Concertmeister aussi. En Allemagne, donc ils ont mis ce titre pour une hors catégorie parce que comme les orchestres étaient plus grands, ils ont fait plusieurs super solistes, il y avait des violons solos, enfin ils ont un petit peu changé les catégories, mais dans le principe c'est toujours le premier violon qui
joue les parties de solo.
Voilà, qui joue les solos, éventuellement les concertos aussi, et qui un petit peu est le tampon entre le chef d'orchestre et puis l'orchestre, qui représente au niveau des instrumentales un petit peu l'orchestre et qui, au niveau des responsabilités, voilà.
Que le chef d'orchestre salue et les solistes saluent en arrivant et saluent en repartant.
Ah oui, entre autres, elle aura la main fatiguée. Hein, parce que...
Très bien, alors je propose qu'on revienne à Messiaen et à la musique, donc la deuxième pièce de ce quatuor pour la fin du temps, les vocalises pour l'ange. Thank you. vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps. Alors c'est une référence au texte sacré, au Nouveau Testament, c'est, oui, c'est l'Apocalypse, oui, de Saint Jean.
Complètement. Donc Olivier Messiaen, il a puisé son inspiration en fait dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui illustre l'ange annonciateur de la fin du temps. Et tout à l'heure, je voudrais juste revenir sur le nombre aussi de mouvements, parce que j'ai oublié de dire ça. Il y a donc 8 parties. Hein.
Le chiffre magique, c'est 7.
Voilà. Alors, justement, c'est bien. Ce chiffre n'est pas arbitraire, il disait toujours. Il s'en expliquait. Le 7, c'était le nombre parfait. Voilà. La création de 6 jours sanctifiés par le Shabbat divin. Le 7 se prolonge dans l'éternité et devient le 8 de la lumière indéfectible de l'inaltérable paix. Voilà, c'était quand il expliquait son quatuor, c'était ce qu'il disait.
Alors cette référence donc au texte sacré rappelle que Messiaen était très croyant et lui-même d'une haute spiritualité.
Absolument, absolument. Toute sa vie, peut-être plus les années passées, peut-être de plus en plus du reste, Messiaen pratiquait, il suivait les messes, il allait... il était organiste.
Hein, il était organiste à la Trinité,
professionnelle, il était à la Trinité, et presque jusqu'à la fin de sa mort, il a joué d'ailleurs. Et beaucoup de gens, hormis la religion, venaient l'écouter, parce qu'il y avait toujours des improvisations, des choses qu'il faisait régulièrement. Mais il pratiquait en plus de son travail d'organiste à l'église de la Trinité.
C'est déjà dans l'éternité, parce que tu as précisé jusqu'à la fin de sa mort.
Ah, j'ai dit ça. Ah non, mais je pars trop vite, moi.
Oui, j'ai lu d'ailleurs que, étant donné qu'il avait déjà composé des pièces qui pouvaient dérouter pour une oreille inhabituée, il avait écrit au curé de la Trinité pour lui préciser qu'il savait aussi jouer les œuvres classiques de la liturgie et qu'il s'y accorderait bien. Mais il était très jeune quand il a pris l'orgue de.
Absolument.
De la Trinité.
Il a tout fait jeune. Il était très doué, hein, il aurait pu faire tout, Messiaen, hein, il était doué dans tous les domaines.
Alors j'ai lu qu'il avait pris 5 cours au conservatoire de Paris, et il avait eu 5 premiers prix, c'est
oui,
ça.
Oui, exactement, c'est quelqu'un de très brillant, très intelligent, très cultivé, il sortait d'un milieu aussi, le père était prof d'anglais, mais il avait traduit Shakespeare, sa mère, Cécile Sauvage, est une poétesse de grand renom, donc il était dans un bain culturel permanent.
Voilà. Alors le morceau suivant, c'est un morceau important pour la clarinette. On va parler un peu de notre ami Alain Danguin. Je lis que votre professeur s'appelait Guy Danguin, mais avec l'orthographe, il faut s'appeler Danguin pour réussir dans la clarinette.
Non, ça suffit pas, malheureusement. Nous ne sommes pas parents. Il faudrait faire l'arbre généalogique pour voir. Mais c'est vrai qu'il y a une différence d'orthographe. Guy, qui était donc mon professeur, professeur conservatoire de Paris, clarinette solo à l'Orchestre National. Alors lui, dans la famille de Guy Danguin, il y a Serge Danguin, qui est un excellent clarinettiste aussi, qui a été longtemps clarinette solo au Luxembourg et qui maintenant est professeur en région parisienne, je pense. Et donc voilà, ça fait beaucoup de Danguin au rendez-vous, mais ça ne s'écrit pas pareil. Moi, ça s'écrit D-A-N-G-H-I-N. Alors, on se connaît très bien. J'ai étudié 5 années avec lui à Paris. Et puis ensuite, il est le parrain de ma fille. Enfin voilà, on garde des relations très, très proches. Et donc ça a été une chance pour moi, ça a été vraiment la rencontre avec Guy Danguin, ça a été pour moi, parce que c'est le pédagogue, ça a été un des plus grands pédagogues de la deuxième partie du XXe siècle, beaucoup de clarinettistes lui doivent leur place, et c'est un pédagogue extraordinaire. Voilà, cela dit, ça ne suffit pas effectivement pour devenir clarinettiste.
Non, mais il faut faire des comme tous les musiciens, des heures de travail et de.
Mais oui, de gamme, justement dans la pièce qui va suivre, La Ville des Oiseaux. Alors, c'est très difficile de parler d'un chef-d'œuvre parce que il faudrait se couper la langue parce que la musique parle d'elle-même et puis qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors après, sur la technique même de la pièce de Messiaen, qui est une référence à la clarinette parce qu'elle se joue, on peut la jouer en bis, on la joue dans des concerts en dehors du contexte même du quatuor. Et là, on trouve des difficultés techniques qui sont d'ordre d'embouchure. Hein, voilà, Messiaen utilise la clarinette dans toutes ses possibilités. Alors, on part de nuances, ou on part de 0 décibel, on entend des phrases qui sont extrêmement longues. Et alors, c'est ça qui m'intéresse. Je voulais parler un peu du temps, parce que là, on perd toute notion du temps. On se retrouve avec des pièces où... cette pièce, on commence sur une note en impression qui ne finira jamais, parce que nous qui sommes habitués, musiciens classiques, à avoir une métrique, à avoir des mesures, à suivre la musique, là on se trouve, alors effectivement il y a toujours des mesures, mais on est obligé de penser pulsation. Et j'ai lu aussi que Messiaen était très attaché à la musique indienne, où la pulsation, où le rythme est très très important et fondamental. C'est une chose à laquelle on est habitué en tant que musicien classique, mais sur une forme mathématique. Là on est obligé de compter, j'allais dire presque bêtement, et on se sent d'un seul coup sortir du temps, c'est-à-dire qu'on n'a plus de notion, on est obligé de se rattacher tout le temps à cette pulsation parce qu'on n'a plus de vision sur les mesures qui suivent. Et au centre de cette pièce qui est extrêmement longue, dans la longueur des notes, on se trouve avec donc comme ça s'appelle l'abîme des oiseaux, on revient dans le temps réel avec les oiseaux. Et là, d'un seul coup, il y a une fulgurance, comme ça, on entend beaucoup de notes, une pièce qui est assez difficile techniquement. Et à nouveau, on retombe dans le même système qu'au début de la pièce, avec des sons infiniment. Alors la clarinette, c'est ce qui a dû intéresser Messiaen et qui intéresse beaucoup les compositeurs contemporains, c'est qu'on peut partir vraiment de nuances extrêmement piano, 0 décibel, et aller très 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 loin dans le son. Alors là, c'est admirablement utilisé dans la musique.
Il jouait lui-même de la clarinette ou...
Ah, je ne pense pas, il faut demander à Philippe Cochard, je ne pense pas.
Non,
mais je pense qu'il connaissait bien les instruments pour lesquels il composait. Il savait que c'était une spécialité de la clarinette que de faire des nuances. Et là, voilà, donc c'est ça. Alors on a cette suspension du temps qui est étonnante, quoi. On a l'impression que le temps s'arrête. On trouve ça plus facilement peut-être dans la peinture. Je pense là comme ça aux peintures de Balthus, le passage Saint-André, où on a l'impression que le temps est suspendu. En musique, c'est assez rare, moi, je trouve, cette sensation de temps qui... Et là, c'est admirablement senti. Et lui, je sais que Messiaen faisait plus référence à Albrecht Dürer, les tapisseries pour l'ange et tout ça. Donc, il y a un rapport aussi, peut-être, avec le...
L'apocalypse.
Voilà. Voilà, c'est en gros ce que je peux dire, comme ça, brûle-pourpoint, mais voilà, c'est une pièce qu'affectionne énormément les clarinettistes. Et qu'il redoute aussi parce qu'elle est épuisante dans le physiquement. Voilà.
Mais écoutez, on va vous écouter.
une pièce admirable qui nous laisse sans voix, comme elle a un peu laissé sans voix et assis les spectateurs du concert ce soir-là. Et là, Danguin, vous m'expliquez la difficulté qu'il y a à entraîner le public vers cette absence de rythme ou cette absence de temps ou ce changement. Enfin, c'est...
Voilà, c'est parce que ce que je disais en micro, c'est qu'on est on est seul face à un public qui, lui, est installé dans un temps réel, qu'on retrouve donc dans le passage central avec les oiseaux, mais pour installer toutes ces notes qui sont extrêmement longues, il faut rentrer soi-même et puis emmener les autres par la main vers ce que je disais justement à Bertilde tout à l'heure. C'est un peu on se retrouve dans la même position que lorsqu'on joue un concerto et que c'est le moment de la cadence. C'est-à-dire que la cadence, pour les auditeurs doivent connaître aussi, c'est on se retrouve seul. L'orchestre s'arrête, on se retrouve seul. Et à ce moment-là, on a l'impression presque de déranger quand on n'est pas habitué. Et là, on se retrouve un peu dans la même position. On est en quatuor, on a soumis une pièce seule et il faut rentrer dedans et puis utiliser le temps. Avec aussi ces silences qui se remplissent et emmener les gens dans une autre atmosphère qui fait qu'on se retrouve, ça marche ou ça ne marche pas. En général, ça marche parce que la pièce est tellement géniale que nous, on n'a pas grand-chose à faire en tant qu'interprète, mais la pièce, comme toutes les pièces, comme tous les chefs-d'œuvre, parlent d'eux-mêmes. Mais il faut faire cet effort-là. Et puis pour le public aussi. D'ailleurs, il y a un silence et on n'entend généralement personne tousser, ni se déplacer, donc c'est bon signe. C'est que ça mord.
Parce que ne pas avoir peur du vide, ne pas avoir le vertige un peu.
Voilà, voilà, il y a une forme de vertige, surtout dans cette musique. C'est tout ce que j'avais à dire de plus.
Très bien, je me souviens d'une petite inquiétude lorsqu'on avait programmé ce concert en se disant, bon, la musique peut ne pas agréer un public habituel.
Et c'est jamais évident, hein, c'est clair. Voilà. Hein.
Et Philippe avait très bien présenté en préalable, en ouverture.
Je pense qu'il est important de mettre dans le contexte, avant une œuvre comme ça, de mettre le public dans le contexte. Et encore plus pour des œuvres actuelles, c'est important parce qu'on ne peut pas deviner. Un compositeur qui explique avant l'audition de son œuvre, je trouve que c'est toujours bien mieux. Et on le voit, nous, avec l'orchestre, quand c'est expliqué, le public réagit toujours différemment.
Oui, bah, j'ai vu notamment Frédéric Lodéon à la tête de l'orchestre, qui fait son rôle de chef d'orchestre, mais fait aussi son rôle de médiateur, et qui prend le besoin d'expliquer, de donner une anecdote, et ça rend les choses vivantes. Là, j'avoue que ce soir-là, le public était dans le camp de concentration, en train de s'imaginer dans le froid, dans les privations, dans les conditions très précaires.
Irréelles, c'était des conditions, mais irréelles. Quelle force pour Messiaen de composer, d'avoir fait ce chef-d'œuvre comme ça dans des conditions pareilles, quoi. Alors, est-ce qu'il fallait ces conditions-là pour faire ce chef-d'œuvre? Voilà, c'est la question.
Oui, on peut se la poser. Ne souhaitons pas.
Certainement pas. Mais
de générer d'autres chefs-d'œuvre par les mêmes moyens.
Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut se poser la question, quoi.
Oui, si justement la souffrance physique, les privations ne développent pas justement le pouvoir de composition, de création.
Oui, comme dans tous les arts.
Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais moi.
Alors, on vous écoute alors. Non,
mais je suis d'accord. Je pense qu'on peut créer dans la jouissance, dans le bonheur, suffit d'écouter Mozart, et bon, pas tout Mozart non plus, mais je pense pas qu'il faille s'enfermer. Disons que là, les paramètres font que ce type d'œuvre devient un chef-d'œuvre parce que les conditions étaient comme ça. Simplement, voilà, c'est une convergence de trucs. Mais ce serait triste s'il fallait à chaque fois qu'il y ait un tel problème sur la planète pour que les chefs-d'œuvre afflux. Mais bon, voilà, c'est
la conception. C'est un peu un cliché qui circule. On dit qu'il faut, les grands artistes sont des...
Il y a quand même pas mal d'œuvres qui sont sorties
de la souffrance.
Quand même, je trouve. Même que ce soit en peinture, en littérature, il y a quand même... Parce que, comme on dit, on sort ses tripes, quoi. C'est vraiment, on va au bout de soi-même.
Mais ça, c'est une vision quand même qui est un petit peu... Bon, on va pas faire un débat là-dessus, mais par exemple, un grand peintre qui a été occulté, qui revient ces dernières années, qui est Rubens, qui était reconnu, qui a été pour moi un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, Picasso. Et les gens en veulent aux gens qui réussissent et qui sont dans le bonheur, quoi. ce qu'on aime finalement.
Oui, je comprends. Oui.
C'est le côté un petit peu, alors, tu vois, de cette souffrance absolue de Van Gogh, pour qui j'ai énormément d'admiration aussi, hein, à d'avoir. Mais je pense pas que, non, je pense qu'on peut avoir des effectivement créés dans la joie. Mais les gens ont du mal à supporter ça. Trop de bonheur chez tout le monde, c'est
oui, voilà, je pense par contre que on ne compose pas, et il n'aurait peut-être pas eu, l'influence est importante quand même. Tu mais n'écris non, pas la même chose, tu ne peux pas la même chose si tu es heureux que si tu es malheureux.
On est dans le contexte d'une œuvre religieuse et tout, alors donc dans une période très difficile, donc le contexte a effectivement favorisé ce chef-d'œuvre, je ne reviens pas là-dessus. Mais dire que toute l'histoire de la musique ou l'histoire de l'art en général ne découle que de la souffrance, je ne suis pas d'accord. Moi. Après, ça, on peut rentrer dans un débat.
Oui, mais non, mais je comprends ce que tu dis. Par exemple, un exemple peut-être, c'est la pièce qui va venir, qui est cet intermède qu'il a écrit justement avant, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, avant il était déjà un peu en transit, il avait déjà vu un peu ce que pouvait être les corps, mais il n'était pas encore complètement plongé dedans, qui n'a pas du tout le même caractère de toute la suite.
Exactement.
Donc peut-être que le fait de l'environnement a influé sur sa façon d'écrire un petit peu.
Exact.
Alors, je rappelle que nous sommes sur RCF, que nous écoutons une émission qui s'appelle Les Moments Musicaux de l'Académie Clémentine et que nous évoquons un concert qui a été donné par les solistes de Cannes dans l'église Saint-Georges de Cannes le 25 octobre 2008 et dont la pièce essentielle était le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Alors nous sommes à peu près au milieu de cette pièce, enfin dans le nombre des oui. morceaux à diffuser. Et après ce grand moment d'émotion à la clarinette, c'est le trio qui reprend pour cet intermède.
Voilà, donc c'est une pièce pour trio à cordes, là, trio avec clarinette, le piano n'est pas là, c'est-à-dire qu'il avait écrit ça à Nancy, donc quand il était en transit. Et donc c'est une pièce assez courte et qui n'est pas encore qui reste
plutôt gay,
plutôt gay par, oui. surtout par rapport au reste, enfin oui. qui et je pense que de l'avoir mis après cet abîme, ça redonne un souffle parce qu'il y avait une telle pression, il y a une telle attente, que comme si on avait un petit peu, pas une bouffée d'oxygène, mais reprendre son souffle pour la suite, pour pouvoir arriver à cette fin qui s'envole un peu vers les cieux, je dirais. Et donc ça donne une petite pause malgré tout.
Une respiration,
oui, c'est une... Voilà.
Très bien, alors nous écoutons l'intermède. Après l'émotion de l'abîme des oiseaux, nous voilà...
Ça fait un bol d'air, hein, quand
on est revenu dans la vie...
Cet intermède.
Dans la vie courante.
Alors, oui, il y a quand même de la gaieté, là, encore. Ouais.
Alors, Philippe Cocher, on va parler peut-être un peu de vous. Violoncelle solo à l'orchestre de Cannes, et aussi un des créateurs de cet ensemble, les solistes de Cannes. Alors,
oui. Oui, ben voilà, violoncelle solo, avec un parcours assez classique chez les violoncelles, violonistes, enfin chez les musiciens. C'est-à-dire qu'après, j'ai commencé avec mon grand-père, le violoncelle, et puis après, je suis allé au Mans, je suis allé à Paris, où j'ai retrouvé Bertie, c'est là que je l'ai connu, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis après, premier prix de violoncelle, de musique de chambre, etc. Je suis arrivé à Cannes, voilà, et ça fait, je ne vais pas vous dire le nombre d'années, ça fait trop longtemps alors. J'enseigne aussi un petit peu au conservatoire.
Au conservatoire, d'accord. Alors j'ai vu que vous aviez travaillé avec d'éminents professeurs comme Noras et Tortelier.
Exactement, oui, je dois beaucoup à Tortelier, et surtout à Maud Tortelier, avec qui j'ai le plus travaillé, puisque elle était plus raisonnable que Paul.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que Paul, ça pouvait partir très fort et ça pouvait être violent avec lui, alors que...
C'est-à-dire dans sa
pédagogie, voilà. Ouais. Et alors que Maud, ça a toujours été très difficile, très dur. Hein. Elle savait ce qu'elle voulait, mais ça restait raisonnable et elle acceptait que ça ne se réalise pas immédiatement. Alors que Paul Tortelier, il fallait réaliser la chose immédiatement. Alors ce qui faisait doublement paniquer l'élève que j'étais.
Très bien. Et alors avec les solistes de Cannes, ça a été créé depuis...
Ça fait peut-être une quinzaine d'années, hein, Myrtille, non, à peu près. Voilà, on a eu l'idée de ça parce que un musicien accompli, l'idéal, c'est de faire de l'orchestre, c'est de faire un peu de musique de chambre, faire un petit peu d'enseignement. Alors là, c'est le bonheur. Hein. Et donc, la musique de chambre, je trouve que c'est un élément essentiel pour un musicien puisque ça permet de mettre en valeur le répertoire fabuleux de musique de chambre, parce que quand on parle de Mozart, bon, Messiaen en ce moment, mais ou des Schubert ou des Brahms, c'est tout, il y a tellement d'œuvres obligatoires à travailler dans sa vie que c'est comme ça qu'avec Bertil on a créé cette formation.
Et ça vous donne l'occasion d'innover, de présenter des pièces que...
Pas trop en fait, on est assez classique. Hein.
Oui, hein, quand même, relativement.
Hein. On est assez classique. Hein.
On aimerait bien de temps en temps un peu déborder, mais c'est vrai que le public nous suivrait peut-être pas toujours.
Oui, c'est vrai. C'est pas toujours gagné. Hein. Quand je propose Messiaen, l'Académie Clémentine a été large d'esprit. Hein. Mais Messiaen, c'est des fois... Les gens ont peur. Hein.
On a fait beaucoup de trios avec Bertie des Marécas, avec Bartok, les contrastes de Bartok. Alors, c'est fou parce que là aussi on est dans les chefs-d'œuvre et puis on n'est pas dans une musique si actuelle. Donc on a fait Stravinsky,
l'histoire du soldat.
Oui, ce qui sont des pièces.
Voilà, alors les gens sont un peu réticents, puis quand ils viennent, ils adorent. Quoi. On a même fait des scolaires avec des tout petits qui avaient les yeux comme ça complètement exorbités et qui ont adoré. Il y a pas de.
Ça, je suis pas surpris que les petits soient plus réceptifs à la musique du XXe siècle.
Moins de préjugés.
C'est vrai. Peut-être
moins de préjugés.
Ils sentent des influences de la période actuelle, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça marche bien.
On est habitué à des sons.
Exact.
Voilà. Alors la pièce suivante, Louange à l'éternité de Jésus, vous intervenez.
Eh oui, là c'est une des plus belles pièces. Rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. C'est une des plus belles pages pour le violoncelle. C'est une des plus belles pages du XXe siècle. C'est évident. C'est un chant qui va vers l'éternité, qui est très long, qui a une progression, une intensité incroyable, avec un piano qui fait les battements du cœur dessous. Hein. Non, c'est une pièce fabuleuse, fabuleuse.
Bah écoutez, on va se laisser charmer. Eh bien, après l'intermède joyeux, le Messiaen nous attira encore dans beaucoup d'intériorité, beaucoup d'élévation. Et on se posait hors micro avec Alain Danguin la question de savoir si cette musique, on pouvait l'écouter chez soi aussi bien qu'en concert.
Enfin, on se posait la question. Alors effectivement, bon, si on écoute, bon, la musique est belle aussi sur les disques, mais le fait de venir au concert, là, me paraît nécessaire parce qu'il y a toute une ambiance qui... Et cet échange dont on parlait tout à l'heure avec le public, cette atmosphère qu'on recrée, ça c'est difficilement faisable sur un disque de toute façon. Alors bon là, on rappelle que c'est un enregistrement qui a eu lieu en public, voilà, donc dans une église avec tout un contexte. Alors il y a même des mises en scène quelquefois, comme chaque instrument ne joue pas toujours en même temps, des lumières, ça c'est très intéressant pour les gens qui vont le jouer, si on a la possibilité de mettre un... un projecteur sur chaque musicien est isolé. Alors là, on crée encore un peu plus de dramatisation, voilà, si on aime ça. Mais c'est vrai que c'est une musique qui n'a pas besoin de ça non plus, mais qui a besoin du public et d'être mis vraiment dans un contexte. Et voilà, c'est pour ça que ça, à mon avis, c'est partagé ici autour de la table. En tous les cas, on est mieux dans la salle que dans son canapé,
oui.
Avec un whisky.
Oui, mais puis en plus, chez soi, on est distrait par... par le téléphone qui sonne, par
il n'y a pas
cette concentration,
oui,
cette
tension qui est tout au long du quatuor, ça je pense pas qu'on puisse la ressentir.
Puis c'est la merveille du concert, c'est qu'on a en face de soi des artistes qui sont bien vivants, qui sont là, qui peuvent trébucher, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de risque dans le CD là, sauf la panne de courant. Là, c'est les artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils sont au contact de la musique directe et on est en face d'eux. Quoi. Alors, vous évoquez la possibilité d'avoir le soutien au violoncelle par un orgue.
Oui, je l'ai fait.
C'est parce que votre sœur est organiste.
Exactement. J'ai vu une collègue qui avait fait ça avec orgue et j'ai essayé. En fin de compte, c'est pas mal aussi du tout. De toute façon, c'est une pièce tellement magique, tellement puissante. C'est une pièce, comme je dis, on n'a pas le trac, on ne peut pas avoir le trac quand on joue cette pièce-là, parce que quand on est dans le contexte, il fait moins 20 dehors, il y a 5 degrés dans le baraquement, il y a des prisonniers, des Belges, des Polonais, des Français qui sont là, qui sentent qu'il se passe quelque chose. Et Messiaen, on dira, j'ai jamais eu un tel moment d'émotion qu'à la création de mon quatuor pour la fin du temps. C'était un moment magique. Alors peut-être que les années ont passé et qu'on en a fait aussi quelque chose, mais j'en suis convaincu. En tout cas, je sais que ça reste une des plus belles pages.
Alors, Messiaen avait une particularité, c'était ce qu'on appelle la synesthésie.
Ah oui, alors donc c'était entendre au travers des sons, il voyait des couleurs. Et l'inverse, quand il voyait une couleur, il entendait un son. Que c'est particulier, et Alain nous disait aussi que Kandinsky était pareil.
J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que Vassili Kandinsky avait le même phénomène, parce que ce n'est pas une maladie, c'est une chance.
C'est une chance.
De pouvoir
associer les deux, c'est évident.
Voilà. Alors, vous aviez une anecdote, Alain Dorian, sur les petits oiseaux.
Non mais ça c'était hors micro, quoi. C'était hors antenne. Non, c'est une petite histoire parce qu'on parlait des oiseaux et donc de Messiaen. Non mais là je me sens pas dans le contexte de raconter cette histoire, mais vous avez du temps.
Oui. Bon, on la racontera alors peut-être la semaine prochaine.
Voilà,
parce que malheureusement le quatuor pour la fin du temps est très long et donc nous ne pouvons malheureusement le diffuser en intégralité dans cette émission. Donc ce qui vous oblige à venir écouter la prochaine émission pour avoir la suite qui est merveilleuse. Alors la prochaine émission, ce sera comme celle-ci, un samedi matin, ce sera annoncé à l'antenne, la semaine prochaine vraisemblablement. Et donc rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à Berthilde Dufour, merci à Alain Danguin, merci à Philippe Cochefer.
Merci à vous.
Et
merci de nous avoir reçus.
Voilà, merci d'avoir participé à cette merveilleuse soirée. Les moments musicaux de l'Académie Clémentine vous disent à la semaine prochaine.